se retrouver après 3 mois qu'on se voit sur les écrans uniquement, c'est une grâce et une reconnaissance à notre Seigneur pour ce temps et ce privilège qu'il nous donne de nous retrouver. Nous sommes en communion aussi avec tous ceux qui nous suivent à travers le Zoom. Sachez que notre cœur est avec vous et nous allons ensemble nous réjouir de partager la parole de Dieu et de nous ressourcer en lui. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de nous parler de la reconnaissance. La reconnaissance après 3 mois qu'on n'a pas l'occasion de nous retrouver. Et nous allons nous appuyer sur Colossiens 1, versets 3 à 8, que Paul nous donne comme exemple de reconnaissance qui s'appuie sur ce que Dieu a fait dans la vie des Colossiens et ce qu'il est en train de faire et ce qui va se réaliser dans les jours et les années qui vont suivre, c'est-à-dire l'espérance en Christ. Colossiens 1, versets 3 à 8, nous lisons avec la version Semeur, prière de reconnaissance. Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi parvenue dans le monde entier où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Amen. Nous voyons ici Paul, comme d'habitude, après les salutations d'usage, il exprime sa reconnaissance d'une manière constante à l'égard des croyants de Colosse. Paul est apôtre, est un apôtre qui savait encourager, qui savait où se trouvent les croyants et il allait vers eux d'une manière soit physiquement ou soit par écrit pour encourager, pour élever, pour permettre que les croyants puissent avancer, progresser dans leur foi et dans leur attachement à Dieu. Paul, dans cette lettre, commence à remercier Dieu pour ce que Christ a fait dans la vie des chrétiens de Colosse. À plusieurs reprises, il va répéter encore cet encouragement, ce remerciement, cette reconnaissance à Dieu pour les Colossiens. Paul écrit cette lettre en étant en prison. Et si nous lisons la lettre, l'encouragement de Paul envers les Colossiens en s'imaginant qu'il était confiné en prison, confiné pas comme nous, parce qu'il n'avait pas assez de liberté de mouvement comme nous, mais il était quand même confiné d'une manière peut-être strict parce qu'il y avait des soldats à côté de lui avec des armes qui le gardaient. Et si nous imaginons que dans ces conditions, Paul a pu trouver la ressource, le courage, l'amour, la foi, la joie d'encourager les chrétiens, c'est vraiment quelque chose qui peut nous toucher et qui peut nous amener à voir que même dans la souffrance, même dans les difficultés, oui, l'Esprit de Dieu peut pousser son peuple à être un peuple qui encourage, un peuple qui témoigne sa reconnaissance. Paul est heureux que ce que Dieu fait dans la vie des croyants. Il n'est pas juste heureux parce que ils sont en paix, ils ne sont pas emprisonnés comme lui, ils sont d'une manière libre, mais il est en train de témoigner sa reconnaissance parce que Dieu a fait quelque chose dans leur vie et Dieu continue de faire des choses merveilleuses dans leur vie. Ce matin, sommes-nous heureux de ce que Dieu fait dans la vie de mon frère et de ma sœur? Est-ce que durant les 3 mois, nous sommes heureux, nous sommes réjouis de ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous ou dans la vie de nos frères et sœurs au sein de l'Église, au sein de notre communauté? Cela peut permettre le fait d'encourager, ça permet à l'âme d'être restaurée. Un encouragement, une reconnaissance peut guérir l'âme blessée, peut guérir l'âme en souffrance. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on commence notre réunion, notre communion fraternelle en présentiel avec ce mot d'ordre d'encourager, d'être de ceux qui encouragent, d'être des Barnabas, d'être des Paul, qui savent encourager, trouver le frère en souffrant, en difficulté, en pleurs, en deuil, et relever sa main et le tenir dans la prière, dans la souffrance avec lui et dans l'encouragement surtout avec lui. L'expérience des Colossiens que Paul relève ici se résume en 4 mots. D'abord, les Colossiens ont entendu la parole de l'Évangile. Paul fonde sa reconnaissance du fait que les Colossiens ont entendu la parole de l'Évangile. Et ensuite, il va de l'avant en disant, non seulement vous avez entendu, mais vous avez cru à l'Évangile, à Christ. Et ensuite, vous vous êtes laissé enseigner, instruit par la parole. Et finalement, cette parole a porté du fruit. Vous progressez, vous avancez dans la foi. Et nous voyons que votre témoignage est entendu partout dans le monde, que vous progressez jour après jour dans la foi. Ce matin, est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire de nous? Est-ce qu'il va se réjouir parce que notre foi est en train de brûler d'une manière d'être brûlante plutôt? Est-ce qu'il va dire, j'ai trouvé mon peuple en sommeil. J'ai trouvé mon peuple découragé. J'ai trouvé mon peuple qui abandonne la foi, qui recule devant l'adversité, devant les épreuves. Mais je pense que chacun de nous peut dire, oui, je veux que le Seigneur me trouve bouillant à la gloire du Seigneur, encouragé et aussi encourageant à l'égard des frères et sœurs. Pour être encourageant, pour que le Seigneur nous donne la force d'encourager, la force de vivre pleinement notre foi d'une manière épanouie, d'abord il faut entendre. C'est ce que Paul va souligner ici, que les Colossiens ont entendu quelque chose. Mais je me pose la question, qu'est-ce que les Colossiens ont entendu? En lisant le texte tout à l'heure que nous avons abordé, nous voyons que les Colossiens ont entendu la voix du Seigneur qui les appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, porte ta croix et viens, suis-moi. Parce que ce qui t'attend est meilleur. Ce qui t'attend est excellent. Ce qui t'attend est pur. La voix du Seigneur par l'Évangile. La vérité du Christ. Les Colossiens, lorsqu'ils ont entendu cet Évangile, Ils ont placé leur confiance totale en Christ, en la parole, en ce qu'il est. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas demandé, est-ce que je peux faire confiance en cette parole-là? Est-ce que je peux faire confiance en ce Jésus? Non, ils ont dit, oui, cette parole mérite notre confiance totale. Et Christ mérite notre confiance totale. Je peux faire confiance parce que lui, il mérite cette confiance-là. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Et il est allé au ciel. Il siège avec le Père à sa droite. Les Colossiens ont entendu la vérité de Christ et aussi la grâce de Dieu qui annonce un message universel. Non seulement ils ont entendu cette vérité de Christ, mais ils savent que ce n'est pas simplement eux. C'est une vérité universelle. C'est un message universel qui permet à tout le monde entier d'entendre et de placer leur confiance en Dieu. L'Évangile est la bonne nouvelle qui annonce la solution offerte par Jésus-Christ au problème du péché. Paul relève et met en valeur la bonne nouvelle passionnante que Christ a donnée et a accomplie pour le monde. Sommes-nous passionnés de cet Évangile? Sommes-nous passionnés de ce message que le Christ nous a donné? Sommes-nous passionnés de la parole de Dieu au point de vivre quotidiennement avec elle et de vivre, de scruter minutieusement, jour après jour, la parole de Dieu? Paul met l'accent, met le zoom sur cette vérité, cette réalité de l'Évangile passionnant que les Colossiens ont entendu et qu'ils ont placé leur foi. L'Évangile dépeint la croix du Christ qui apporte l'espérance de la vie éternelle et la victoire sur la mort. Le problème du péché et de la mort ont été résolus. Nous n'avons plus à craindre la mort. Nous n'avons plus à craindre les épreuves ou les difficultés qui peuvent nous envahir. Parce que Christ a déjà accompli une œuvre de résurrection, une œuvre de restauration. Ce n'est pas parce que nous maîtrisons tout, mais c'est parce que nous avons qu'au-delà de la mort, qu'au-delà de la souffrance, il y a quelque chose de merveilleux qui nous est réservé, c'est-à-dire la vie éternelle, l'espérance de la gloire. Cette espérance doit être ancrée en nous, doit nous ranimer chaque jour, parce que notre vie n'est pas simplement que des épines ou des roses, mais aussi les deux à la fois, mais qui aboutit simplement à l'espérance passionnante du Christ. Paul se réjouissait de ce que les Colossiens ont entendu et est très reconnaissant. Quelle joie pour qui envoie ce message. Quelle joie pour qui entend ce message. L'essentiel, c'est vraiment d'entendre le message. Ce n'est pas de recevoir le message, mais entendre va plus loin que recevoir un message. Si nous avons entendu le message, c'est important. Parce que ce message va nous donner, nous accorder la vraie vie. La vie qui va au-delà de la souffrance et de tout ce que nous pouvons vivre. Ce matin, j'aimerais nous poser la question, qu'entendons-nous au quotidien? Si nous ouvrons la radio, si nous ouvrons la télé, si nous sortons, nous entendons simplement, souvent, la plupart des temps, des mauvaises nouvelles. Des nouvelles vraiment de guerre, des nouvelles de préparation des guerres. Et nous avons entendu la Chine avec l'Inde qui se sont accrochées tout dernièrement. On ne sait pas où ça va aller. Nous entendons des maladies aussi qui sont en train de répartir en Chine encore. Donc, chaque jour, les nouvelles vont affluer et vont augmenter parce que le Seigneur l'a dit que dans les derniers temps, nous allons être submergés de ces genres de nouvelles. On va entendre des cris de guerre. Mais ce que nous devons entendre au-delà de tout ça, c'est l'espérance de la vie éternelle. Ça, c'est un message qui ne doit pas quitter nos oreilles, qui ne doit pas quitter nos pensées. Ne nous laissons pas submerger par les fake news. Ne nous laissons pas submerger par notre propre ego au point d'entendre nous-mêmes. Ne nous laissons pas submerger par l'insatisfaction du quotidien. Les gens ne sont pas satisfaits et chaque fois, ils seront toujours en train de murmurer, de dire si c'était comme ça, c'était mieux, si c'était hier, c'était mieux, si c'était les années 50, c'était mieux. Ça, nous serons toujours submergés par ces nouvelles-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment de garder nos yeux centrés sur Christ, centrés sur sa parole, centrés sur l'Évangile. C'est là qui doit être notre quotidien, notre nourriture, notre espérance. Nous ne quittons pas des yeux de la parole de Dieu pour nous laisser conduire par lui et nous laisser conduire par notre Seigneur. Nous allons lire Romains 10, versets 15 à 18. Daniel, si tu es prêt pour... Oui,
s'il te plaît. Ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde.
Oui, c'est ça, merci. Donc, nous voyons ici que le plus important, ce n'est pas d'être émetteur ou récepteur, mais de centrer nos regards, nos pensées sur le message lui-même, ce que l'on est, ce que l'on fait du message, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à revenir sur la parole, à revenir sur ce que le message de l'Évangile nous dit. Les mauvaises nouvelles, nous allons continuer à en entendre et ça va nous submerger. Et faisons attention que ces mauvaises nouvelles ne nous submergent pas au point d'enlever la bonne nouvelle qui est en nous. De nous faire oublier que nous avons une bonne nouvelle à transmettre à ce monde souffrant, à ce monde égaré, à ce monde qui est en train de palabrer avec lui-même. Que le Seigneur nous aide et nous guide à ce que ce message soit totalement ancré en nous, que nos pensées soient imbibées, submergées de la bonne nouvelle. Quand nous sortons, que nous soyons heureux d'annoncer, je porte une bonne nouvelle. Je suis porteuse de bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle de Christ que j'ai. Ça me remplit, ça me rassasie, et je suis rassasié de cette parole. Et elle habite en moi, et j'ai besoin de parler de cette parole et d'accorder aussi la joie à d'autres personnes d'entendre cette bonne nouvelle et de mettre leur foi en Christ. Deuxièmement, croire. Qu'est-ce que les Colossiens ont cru? Ça, on peut se poser la question. Paul remercie le Seigneur pour ce qu'ils ont entendu, l'Évangile, et ce qu'ils ont cru. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Les Colossiens ont cru en Christ. Les Colossiens ont cru à la puissance de l'Évangile. Les Colossiens ont cru à l'espérance à venir. trois choses que les Colossiens ont cru. D'abord, ils ont cru en Christ qui est le Seigneur. Ensuite, ils ont cru à la puissance de l'Évangile qui transforme, qui donne vie, qui donne la paix, la joie, qui restaure. Et ils ont cru à l'espérance à venir avec Christ. Les Colossiens n'étaient pas obligés de croire, mais ils ont fait le choix de placer leur confiance en Christ. Parce que l'évangile qu'ils ont cru est un évangile vraiment qui a une puissance en elle-même, parce qu'elle est en lui-même, parce que c'est la parole de Dieu. L'important, ce n'est pas d'entendre, mais de ce que l'on fait avec le message, comme je viens de le dire, souligner tout à l'heure. Beaucoup entendent l'évangile, la bonne nouvelle. Est-ce que beaucoup croient à l'évangile? Est-ce que beaucoup placent leur confiance en Christ? Le Seigneur nous invite, comme les Colossiens, à placer pleinement notre confiance en Christ. Même dans la souffrance, dans les difficultés, de garder toujours notre confiance en Christ. Parce que facilement, si nous plaçons notre confiance en une doctrine, le jour où il y a des difficultés, des épreuves, nous allons flancher. Si nous plaçons notre confiance en une personne, le jour que cette personne n'est pas là, ou cette personne a des difficultés, des épreuves, ou cette personne s'écroule, ce jour-là, nous allons nous voir totalement anéantis. Un jour, Whitefield, qui était un évangéliste du temps du réveil, je pense du 18e siècle, début du 18e siècle, il a posé une question à un croyant de son église. À quoi crois-tu? Et il lui a répondu, en fait, moi je crois à ce que l'église croit. Whitefield lui demande, mais qu'est-ce que ton église croit? Et il a dit, l'église croit ce que je crois. Et infiniment, il revenait sur ce que il a fondé sa foi sur ce que l'Église croit. Et le fait de revenir à ce que l'Église croit, il ne pouvait pas, parce qu'il a adhéré à ce que l'Église croit. Point. Si notre foi est simplement sur ce que l'Église croit, le jour où nous avons des difficultés, nous allons être dans un véritable problème. Ne croyons pas simplement à une personne, à un pasteur ou à un évangéliste ou à quelqu'un, à un ancien. Croyons en Christ. Plaçons notre confiance totale en lui. C'est lui qui va tenir notre foi. C'est lui qui va ranimer notre foi. C'est lui qui va nous soutenir lorsque nous sommes en épreuve, en difficulté. C'est ce que les Colossiens ont fait. Les Colossiens n'ont pas placé leur foi en Epaphras, par qui ils ont entendu la bonne nouvelle et ils sont devenus chrétiens. Les Colossiens n'ont pas placé leur foi en Paul, même s'il est apôtre. Les Colossiens ont placé leur confiance en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça la puissance de l'Évangile. Même si mes amis m'abandonnent, même si le monde s'écroulait, même si je suis en danger, Christ est avec moi. Et Christ est suffisant. Gloire à Dieu. C'est là notre véritable foi. Si notre foi est attachée comme ça en Christ, rien ne peut nous déboulonner comme le mot aujourd'hui revient plusieurs fois. Nous sommes totalement affermis sur le roc, sur Christ. Amen. Les Colossiens ont cru en Jésus-Christ, pas à une doctrine, pas à une église, même pas à la foi elle-même. Notre foi en Jésus nous engage tout entier, corps, âme, esprit, intelligence, émotion et volonté. Cette foi tire sa force dans l'Évangile elle-même. Cette fois-ci, nous avons placé notre foi en Christ. Elle va grandir jour après jour. Elle sera solide. Colossiens 2, versets 5 et 7. Si Daniel pourrait nous aider à la lecture. Colossiens 2, versets 5 et 7. Versets 5 à 7.
Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés à lui et affirmés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ.
Amen. Ici, merci Daniel. Nous voyons ici que Paul dit aux Colossiens de se fonder et s'enraciner en Christ sur la parole. C'est ça qui va les affermir. C'est ça qui va les rendre inébranlables. Même s'ils rencontrent des épreuves, des difficultés, cette foi enracinée en Christ va les conduire, va les entourer et va les permettre de grandir et de porter du fruit. La véritable foi implique un choix, un engagement et du progrès. Elle engage tout notre être et notre volonté. Nous voyons ici que dans notre anecdote que Whitefield voulait simplement amener la personne de son église à se dire « Non, ta foi ne doit pas être ancrée sur moi. Je ne suis qu'un porte-parole de l'évangile. Je prêche l'évangile et j'enseigne l'évangile. La parole, mais ta foi doit être fondée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ uniquement. Ta foi ne doit pas être fondée sur une église, sur la doctrine d'une église. Ta foi ne doit pas être fondée sur juste les choses, les anecdotes ou les histoires racontées. Ta foi doit être ancrée totalement et entièrement sur Christ et sur sa parole. Et donc, si notre foi est ancrée en Christ, si nous avons cru en lui, maintenant laissons-nous nous enseigner par lui. Paul est reconnaissant parce que les Colossiens se sont laissés enseigner. Et souvent, c'est cette étape qui est totalement difficile dans les églises, c'est laisser enseigner. C'est laisser enseigner, c'est savoir qu'il n'y a pas de foi solide sans enseignement. L'enseignement est comme un champ que nous avons semé des graines et que les graines ont poussé et la semence a bien poussé. Et en même temps, il y a des mauvaises herbes dans la semence et il faut enlever les mauvaises herbes. Et l'enseignement joue le rôle d'enlever les mauvaises herbes. Parce que nous avons un passé avant de placer notre confiance en Christ. Nous avons des aperçus, des appréhensions, des habitudes, de ce que nous avons intégré en nous comme vérité. Et l'enseignement va aider à enlever ces mauvaises herbes-là pour nous laisser croître la bonne plante et que la plante puisse produire du fruit. Il n'y a pas de foi solide sans communion fraternelle. L'Église existe parce que sans communion fraternelle, notre foi serait ramassée par les loups et les qui sont dehors et les loups-garous qui sont dehors. Et il y a plein de loups. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Je vous ai envoyé dans le monde » comme des brebis au milieu des loups. Si nous ne sommes pas en communion avec l'Église, avec les frères et sœurs, les loups vont nous attaquer. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous sommes en communion. Nous savons que telle personne, il faut le ramener dans le troupeau, sinon il risque de se faire attraper par quelque part. Et nous voyons même, les bergers, ils savent ça. Quand le lion arrive et veut attaquer le troupeau, il n'attaque pas la masse. Il n'attaque pas ceux qui sont ensemble. Il cherche à voir qui est solitaire. Quelle est la brebis galeuse qui est solitaire de son côté, qui veut rester seule? Il va aller vers cette brebis parce qu'il sait qu'il n'aura pas de défense. La communion fraternelle est importante. Même dans cette période difficile, nous avons vu comment ça nous a manqué, comment la communion fraternelle avec les frères nous a tellement manqué. Nous aimerons nous retrouver ensemble, nous encourager. Malgré qu'on l'a fait par Zoom, on l'a fait aussi par téléphone, mais c'est mieux d'être ensemble. C'est mieux de vivre cette communion ensemble. Même si on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser, c'est meilleur. Le Christ demande de se mettre à son école pour apprendre à mieux le connaître si nous voulons devenir des disciples du Christ. Matthieu 11, verset 29. Et se mettre à son école est cité au moins 260 fois. Dans la parole de Dieu. Se mettre à l'école du Seigneur, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui veut que nous soyons en communion et c'est lui qui veut que nous soyons, nous progressions dans la foi. Matthieu 11, verset 29. Daniel, si tu peux nous lire.
Je vous conjure sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Amen. Mettez-vous à mon école dans d'autres versions, car c'est d'une manière qui relève que le joug que nous portons, c'est à Christ. On va lui donner ce joug-là et prendre son joug parce que c'est léger. Et lorsque nous sommes soumis à Christ, en l'écoutant, en l'entendant, en croyant ce qu'il nous dit et en se laissant enseigner par la parole, nous sommes plus que vainqueurs parce que la suite logique de notre affermissement en Christ, c'est vraiment de se laisser enseigner et de porter le joug du Seigneur. L'Église a le rôle d'accueillir et d'endurer et d'entourer les jeunes chrétiens par la parole et la communion fraternelle. Ici, ce n'est pas simplement les jeunes chrétiens, mais tous. Nous avons besoin, tous, chacun de nous a besoin de continuer à nous laisser enseigner par la parole. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre avec notre Seigneur, de le connaître mieux. Enseigner des disciples pour Jésus et non pour en faire nos propres disciples. Sinon nous allons devenir des obstacles pour les frères et sœurs. Enseigner des disciples pour le Seigneur. C'est les disciples du Seigneur. Ce n'est pas nos disciples. Et à ce niveau, il faut vraiment que celui qui enseigne prenne beaucoup de recul. Que les anciens, les pasteurs, les responsables qui enseignent, qui entourent, prennent du recul. Parce que si nous ne prenons pas du recul, nous allons enseigner les gens comme nos propres disciples. Et finalement, les gens ne vont suivre que nous. Alors que le principal, c'est de suivre le Christ. Est-ce qu'ils connaissent Christ? Est-ce qu'ils veulent aimer Christ et prendre le joug du Christ? Ça, nous devons veiller chaque jour, à chaque instant. S'assurer que les frères et sœurs comptent sur Christ premièrement et non sur nous, afin que leur foi soit pure, bien enracinée en Christ pour la gloire du Seigneur. Actes 20, 28, 30 à 32. Actes 20, 28 à 32. S'il te plaît, Daniel. Oui.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux.
Oui, 32.
C'est bon. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé ni des jours d'exemplir avec l'art chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Amen. L'Église ne nous appartient pas, les brebis aussi. Les brebis appartiennent à Christ. Les disciples sont formés pour être affermis pour Christ. Et que le Seigneur nous aide à enseigner, à instruire, à ne cesser de prier pour les frères et sœurs, mais en sachant que nous prions pour que leur foi soit affermie en Christ. Nous enseignons pour que leur foi soit affermie en Christ, afin que, même si nous, on n'est pas là, que les disciples continuent à croire, que les disciples continuent à vivre leur foi, parce qu'on n'est pas indispensable. Et une anecdote, au début de ma foi, sincèrement, je m'étais avancé totalement à croire ce que, voilà, c'est mon pasteur et c'est point. Donc, ma foi était totalement ancré sur ce que le pasteur dit, ce que le pasteur est. Et finalement, un jour, j'ai appris quelque chose de ce pasteur-là. Et j'ai fait une semaine, ma foi était presque au sol. Tellement que j'ai placé toute une confiance en la personne du pasteur. Et lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai été totalement découragé. Et là, dès ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler différemment. Malheur à toi si ta confiance est bâtie sur un homme. Ta confiance doit être bâtie sur moi, sur la parole et pas d'autre. Lorsque, quel que soit ce qui arrivera, tu entendras, tu verras, mais ta foi restera solide parce que le Seigneur est ton Dieu, ton rocher, ta force et ta victoire. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous bâtir sur lui parce que c'est une reconnaissance. Combien de chrétiens vont être déboulonnés en cette période d'épreuve. Combien de chrétiens sont refroidis? Ils ne veulent plus lire leur Bible parce que c'est l'Église. Si on ne peut pas se rencontrer, c'est fini. Ma foi, bye bye. Alors que si réellement c'est Christ, même dans ta maison, dans ta chambre, là où tu dors, tu es conscient que Christ est là. Je n'ai pas besoin vraiment de me faire des illusions. Christ est là et il m'enseigne, il me fortifie, il me renouvelle, il continue de m'aider, de m'entourer. Nous allons terminer par cette dernière partie, demeurer fidèle. C'est le résultat de tous les trois que nous avons vus, que nous venons de voir. Ils ont entendu l'Évangile, ils ont cru en Christ, et ils se sont laissés instruits. Et là, les fruits sont visibles. Paul dit à la fin du verset 7-8, c'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur qui vous a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Ah, quel témoignage! Il nous a appris que vous êtes bondé d'amour. Vous êtes plein d'amour pour le Seigneur. Vous êtes plein d'amour les uns pour les autres. Que le Seigneur nous témoigne de cette reconnaissance-là, que nous sommes pleins d'amour les uns pour les autres, que nous sommes pleins d'amour pour lui. C'est là que nous serons réellement attachés à Christ, la fidélité dans la fidélité qui est un excellent fruit de l'esprit. C'est en demeurant fidèle dans l'amour produit par le Saint-Esprit que l'enseignement peut porter du fruit. Si nous ne demeurons pas dans l'amour, dans l'enseignement de Christ, comment nous allons porter du fruit? C'est difficile. L'Évangile progresse avec des ouvriers et des collaborateurs engagés et fermement attachés à Christ dans un service fidèle. 2 Timothée 3, verset 14 nous le dit. Confie-les à des personnes fidèles. Fidèles parce que le Christ a fait porter le fruit de sa fidélité, de son amour en eux, et que avec eux, l'Évangile va progresser. L'Évangile va atteindre là où il n'est pas connu aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à porter du fruit. Ma prière et notre prière pour chacun de nous, que le Seigneur reconnaisse ces quatre qualités de reconnaissance dans nos vies, dans son Église. Entendre, croire en Christ, fonder sur Christ et se laisser enseigner, être enseignable et surtout demeurer dans la parole, demeurer fidèle, attaché à ce que le Christ nous a enseigné. La reconnaissance est importante pour encourager les frères et sœurs à persévérer dans la foi. Paul encourage en valorisant l'expérience des Colossiens. Ils ont entendu l'Évangile, ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été instruits comme des disciples et ils ont porté du fruit à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à porter du fruit, à mettre en pratique la parole de Dieu et surtout, surtout, de mettre en pratique afin de porter du fruit. On est reconnaissant parce que durant tous les 3 mois, nous avons vu la fidélité de chacun de nos frères et sœurs. La fidélité dans la tâche, dans la responsabilité et aussi la fidélité dans le service et avec les frères et sœurs. C'est important pour témoigner que notre Seigneur est toujours à l'œuvre, même dans l'épreuve. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous invite ce matin à la reconnaissance, être reconnaissant de ce que tu fais dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Merci pour toute l'Église. Merci pour ces moments que nous avons passés dans le confinement. Nous avons vu ta fidélité. Nous avons vu ton bras qui nous a soutenus, qui nous a relevés, qui nous a encouragés. Oui, des frères et sœurs ont traversé des épreuves. D'autres ont été malades. D'autres ont perdu des parents proches. D'autres ont été dans le découragement au point qu'ils étaient vraiment dans la peur. Seigneur, nous avons vu dans toutes ces difficultés et dans toutes ces épreuves ta main fidèle qui nous a accompagnés. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour chacun, pour chacune. La fermeté, l'affermissement que tu as permis à chacun de renouer avec toi, de remettre cette réalité de notre relation avec toi. Durant ce confinement, nous te disons merci. Et nous voulons être reconnaissants surtout de ce que tu as semé dans la vie de chacun et de ce que, oui, tu vas permettre que ta semence puisse germer et puisse grandir, porter du fruit et que Seigneur notre Église puisse aller de l'avant dans la foi, que ton Église progresse malgré les difficultés, malgré les épreuves, que ton Église puisse aller de l'avant, qu'aucun obstacle, oui Seigneur, nous ralentisse, qu'aucun obstacle nous rende mieux de l'Évangile, parce que tu veux que nous continuions à proclamer cet Évangile qui est source de vie, source de victoire, source de rédemption pour nos frères et nos sœurs. Merci pour l'œuvre de ton esprit qui continue à visiter, à relever, à restaurer, à guérir, à accompagner et à nous enseigner tes voies, afin que nous puissions, Seigneur, discerner ta voix et te suivre, comme tu l'as dit. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Que tes brebis qui t'entendent, qui te connaissent, puissent te suivre avec fidélité, avec attachement pour ta gloire. Merci Jésus, parce que tu es là au milieu de ton peuple. Tu règnes et tu permets que ton peuple, oui, puisse continuer à être, oui, de ceux qui progressent en tout point pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.